Foot Karma.
Bonjour, je suis Bina Paradin-Mikoto.
Foot Karma.
L'alimentation peut être un acte heureux et positif pour améliorer notre karma et non synonyme d'inquiétude et de stress. J'échange dans Foot Karma avec des acteurs qui œuvrent pour une alimentation bonne pour nos papilles, mais aussi pour notre santé et la planète. Cuisiniers, journalistes, industriels ou encore médecins, les invités de ce podcast incarnent tous le Foot Karma. Chacun à leur échelle, ils participent à répandre une énergie positive dans le secteur de la bouffe. Je vous emmène à leur rencontre dans Foot Karma. Vous venez avec moi ?
Foot Karma.
Bonjour et bienvenue sur Foot Karma. Je suis aujourd'hui avec Krotoum Konaté.
Bonjour, ravie en tout cas d'échanger avec toi. Je suis vraiment contente.
D'échanger sur le microbiote, je voulais comprendre avec toi pourquoi le microbiote orchestre notre santé. Krotoum, tu as un parcours passionnant puisque tu es biochimiste agronome de formation.
Tout à fait.
Tu as été directrice de l'ITAB, qui est l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique de 2003 à 2016.
C'est bien ça.
Un poste qui t'a permis de faire plein d'expériences scientifiques sur le terrain, en Europe et en Afrique de l'Ouest.
Aussi, ça c'était avant justement l'ITAB. J'ai travaillé effectivement en Guinée, en Côte d'Ivoire.
Tu as ensuite rejoint l'Institut de l'alimentation bio.
Oui.
Et tu t'es reconvertie dans le métier de nutrithérapeute.
Exactement.
Aujourd'hui, tu accompagnes des personnes en exploitant des bilans biologiques et tu animes aussi des formations sur l'agriculture et l'alimentation bio et la qualité des aliments.
C'est bien ça.
Et tu interviens en entreprise sur pas mal de thématiques autour du ventre, qui est notre deuxième cerveau, du burn-out, de la neuronutrition, de la nutrition et de l'efficacité. Donc plein de sujets qui sont passionnants. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer ce que c'est que ton métier de nutrithérapeute ? Qu'est-ce que c'est que la nutrithérapie ?
Alors,
et en quoi c'est différent de la vision d'un nutritionniste ou d'un diététicien,
alors,
comme on entend,
alors,
comme on le connaît souvent ?
Effectivement, il y a le diététicien, donc c'est une formation reconnue par l'État. Et donc, souvent, c'est des BTS, diététiciens nutritionnistes, où ils vont aborder justement l'alimentation. On va aborder des pathologies et en général, voilà, on va chercher à établir des équilibres alimentaires et pour répondre à des pathologies. Moi, c'est différent dans le sens où la nutrithérapie, c'est une discipline qui repose sur les connaissances de la biochimie. Et notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que on retrouve un fonctionnement optimum de notre corps, donc d'un point de vue métabolique, aussi bien endocrinien, que ce soit aussi le système, on va dire, neurovégétatif, etc., essentiellement d'abord par l'alimentation et s'il le faut par des compléments alimentaires.
Alors le microbiote, c'est pas encore toujours connu, donc j'ai préparé un petit zapping de
d'accord.
ce qu'on dit sur le microbiote et j'aimerais avoir ta réaction dessus.
Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans notre intestin. Ce microbiote se développe progressivement après la naissance, puisque dans l'utérus maternel, il n'y a pas de micro-organismes vivants dans notre intestin. Et progressivement après la naissance, il va y avoir une colonisation de notre intestin par ces micro-organismes pour atteindre un microbiote dit adulte vers l'âge de 3-4 ans à peu près.
Se pouvait-il qu'une digestion défaillante, en plus de dégager cette odeur, influence aussi notre état psychologique ? J'ai alors découvert toute une branche de la recherche qui se consacre au rapport entre le cerveau et l'intestin. C'est un domaine qui évolue à vitesse grand V. Il y a une dizaine d'années, les publications sur le sujet étaient rares. Aujourd'hui, les articles scientifiques se comptent déjà par centaines.
C'est la découverte en 2010 de l'extrême richesse de la flore intestinale et de centaines d'espèces bactériennes jusque-là inconnues qui ont bouleversé les connaissances. Que soit d'ailleurs ici remercier tous les généreux anonymes qui ont contribué à cette avancée majeure en faisant don de leur sel à la science.
Première révélation, alors que l'ADN, le code génétique de notre corps, comporte 23 000 gènes, le microbiote en compte 3 900 000. C'est le règne de la diversité. Encore plus surprenant, les bactéries modifient notre comportement. Observez bien ces deux souris. À gauche, une souris à laquelle on a retiré le microbiote intestinal. Elle sort du couloir. Son comportement est beaucoup trop téméraire. À droite, une souris normale. Elle reste dans le couloir. Son comportement est prudent. La preuve est faite que l'intestin peut être considéré comme un deuxième cerveau.
Notre intestin, c'est grosso modo la taille d'un terrain de tennis. Si on dépliait toutes les villosités de notre intestin,
intestin, tous les replis si vous préférez.
Par contre, c'est vrai que si demain peut-être on aura des médicaments, des probiotiques très très précis et très individuels pour chaque patient, aujourd'hui on en est loin. Il y a des indications, il y a des cas sur lesquels on a vérifié l'intérêt de certaines souches probiotiques, pas toutes, mais certaines souches. Mais ce qui reste le meilleur conseil, c'est une alimentation microbiotique, une alimentation nourricière de notre microbiote.
Donc on le voit, le microbiote, c'est tout nouveau finalement à l'échelle humaine. C'est un concept récent. Quelles sont tes réactions en écoutant ce zapping?
Tout ce que j'ai entendu est vrai. C'est une discipline qui est vraiment récente. Il y a vraiment un engouement pour le microbiote intestinal. Comme on le dit, je fais beaucoup de veille scientifique. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une publication scientifique sur le microbiote. J'avais des alertes et je suis même dépassée parce que il y en a pas mal. Donc j'ai même un peu du mal à suivre. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le fait de s'intéresser au microbiote intestinal, on revient à comprendre une cause, on essaye d'aller à l'origine d'un dysfonctionnement et pas simplement gérer des symptômes, mais de se dire, il y a peut-être un déséquilibre et il est d'où. Et si finalement il y a un déséquilibre du microbiote intestinal, comment aussi s'est-il installé? Parce que, et comme il l'a très bien dit, dans un extrait, le fait de se dire, c'est une construction, c'est d'abord une transmission à l'accouchement. Donc, on hérite d'abord du microbiote de sa mère quand on est né par voie naturelle, par voie basse. Et puis, vraiment, c'est en fonction de notre environnement, de notre alimentation, frère, sœur, bisous, pas bisous, chien, etc. J'ai mis les mains par terre, j'ai léché de la terre ou pas. Tout ça va contribuer à construire le microbiote. Et à l'âge de 3 ans, effectivement, on a l'équivalent de notre microbiote adulte. Et la différence va se faire...
Est-ce que le combat est perdu à 3 ans ou est-ce qu'il y a des choses à faire?
Non, ça peut... Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que même si on héritait, on va dire, d'un microbiote, on va dire, un peu plus appauvri, on pourra revenir dessus, alors il y a quand même moyen d'essayer de l'enrichir. Et on voit bien que... le mode de vie, la façon de manger, pratique de sport, le style, le sommeil, etc., tout ça va impacter aussi sur la qualité de notre microbiote.
Alors justement, on parle beaucoup d'alimentation microbiotique.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands piliers d'une alimentation microbiotique, à ne pas confondre surtout avec la macrobiotique?
Oui, c'est différent, effectivement. Quand on parle d'alimentation microbiotique, du coup, c'est d'avoir une alimentation où on va faire en sorte de donner des bons aliments à nos bactéries qui sont, comme on dit, nos colocataires. Et de quoi ont besoin nos bactéries? Pour bien les nourrir, il faut leur apporter des aliments qui sont riches, on va dire, en fibres, si on veut simplifier. Et si elles ont ces fibres, qui sont souvent en fait des fibres que nos cellules intestinales ne savent pas digérer ces fibres. Et la nature est très bien faite, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de symbiose qui s'est vraiment opérée depuis la nuit des temps. Et donc, c'est des bactéries qui nous permettent de digérer ces fibres. Et donc, elles nous rendent déjà ce service et elles, ça les permet donc de bien se nourrir. Et en plus, en contrepartie, elles sont capables de fabriquer des substances, on parle d'acides gras à chaîne courte, qui sont bénéfiques pour le corps, mais pas que pour le digestif.
Ce sont des colocataires vraiment sympas.
C'est vraiment des colocataires qui nous rendent un service inestimable. Quand elles digèrent ces fibres-là, elles sont derrière capables de produire des vitamines aussi. Donc, ces fameux acides gras à chaîne courte qui ont des propriétés anti-inflammatoires. On se rend compte aujourd'hui, même par rapport à la COVID-19, qui est un virus, un virus respiratoire, etc. On sait aujourd'hui que les acides gras à chaîne courte, donc ces substances qui sont produites par des bactéries, sont capables d'aller jusqu'aux poumons et d'éviter et de pouvoir agir aussi avec le virus et éviter ces fameuses tempêtes cytokiniques. Voilà, c'est juste un truc de malade. Là, on avance scientifiquement sur toutes ces questions, mais on se rend compte que un bon microbiote peut produire des bonnes substances. Mais s'il y a un déséquilibre, et là, on peut peut-être revenir dessus, il peut avoir des bactéries, parce que quand on parle de microbiote, c'est des bactéries, mais c'est aussi des champignons, c'est aussi des virus, c'est des archées, etc. Donc, il y a vraiment un ensemble d'organismes. La majorité, c'est quand même des bactéries qui sont en nous et sur nous. Et après, tout est une question d'équilibre et de diversité. Donc, il y a des bonnes bactéries comme des moins bonnes. Mais les moins bonnes, on en a aussi besoin. Tout est une question de pas trop de trop bonnes, pas trop de trop mauvaises, etc. C'est un équilibre. Et ça, c'est un équilibre qui est assez fragile, qui, comment, si je suis fatiguée, si je ne mange pas bien, comment je nourris, quelles bactéries, etc. Ce déséquilibre, il peut vite passer dans un sens positif. Enfin, pas positif, mais il peut vraiment être déséquilibré et avoir des incidences, on va dire, délétères pour la santé, ou parfois c'est juste une petite gêne, mais qui peut se rééquilibrer.
Food Karma.
Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Tu nous parles de fibres, tu nous parles de bactéries, mais finalement, en termes de pratico-pratique, d'ingrédients que tu peux mettre dans ton assiette, pour, en supposant que tu es en bonne santé, on ne parle pas des pathologies, mais tu es en bonne santé, tu veux continuer à alimenter ta microbiote, qu'est-ce que tu dois mettre dans ton assiette ?
Alors, quand on parle des aliments riches en fibres, donc ça va être... Il y a des fibres qu'on va trouver, par exemple, dans les légumes, le poireau, etc., des légumineuses. Ça va être aussi des aliments qui contiennent aussi ce qu'on appelle des amidons résistants. Donc là, c'est pas complètement des fibres, mais ce sont un type d'amidon donc, qu'on va trouver, par exemple, dans la pomme de terre. Une astuce, c'est vous mangez des pommes de terre, mais une salade de pommes de terre, donc des pommes de terre refroidies vont être riches en amidons résistants. Vous mangez de la banane ou de la banane plantain, c'est riche en amidons résistants. Ou alors les céréales, mais complètes, qui contiennent justement des fibres et ces amidons résistants, ça va nourrir les bonnes bactéries. Il y a aussi, du coup, les aliments, on va dire, lacto-fermentés. C'était un moyen pour conserver les aliments autrefois, mais en plus, ça crée une espèce de synergie, ça amplifie les teneurs en vitamines, en minéraux, etc., la lacto-fermentation. Et il y a des bactéries qui se développent, qui font fermenter, et elles se développent en surnombre, surtout qu'il y a la présence de sucre qui va un peu inciter. Et là, c'est des aliments, du coup, qui contiennent aussi ces bactéries qui peuvent être intéressantes. Ce sont des bactéries qui, on va dire, bénéfiques. Il y a les champignons aussi qui sont des
aliments. Sur la lactofermentation, France, on n'a pas beaucoup de recettes qui sont lactofermentées. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses qu'on peut facilement mettre dans son assiette et qui sont lactofermentées?
Par exemple, il y a le kimchi. Qui est un plat lacto-fermenté. Il y a la choucroute.
Le kimchi, c'est du chou coréen. Et c'est délicieux.
C'est très bon. C'est vrai que ça arrache un peu quand c'est
un peu fort. Mais c'est très bon. Voilà.
Il y a la choucroute. On n'est pas obligé d'aller avec toutes les saucisses et tout, mais c'est déjà le chou fermenté qui l'est. Il y a aussi tous les cornichons, les pickles, etc. Ce sont des aliments lacto-fermentés. Et après, dans la fermentation, on a aussi les yaourts qui sont après, débat ou pas, produits laitiers, etc. Donc ça, c'est autre chose. On ne va peut-être pas rentrer là-dedans. Mais le yaourt, c'est un processus aussi.
Le yaourt et le fromage.
Et les fromages. Et après aussi, les pains au levain. On est sur des processus de fermentation. Donc finalement, on se rend compte qu'on mange quand même pas mal d'aliments fermentés. Et notamment, par exemple, des fromages à pâte dure, très affinés, sont aussi très intéressants. Moi, je trouve le top, pour ceux en tout cas qui n'ont aucun problème avec des produits laitiers, un fromage affiné bio au lait cru qui a au moins 9-10 mois, il va du coup aussi contenir des bactéries qui sont intéressantes pour réépaissir notre muqueuse intestinale.
Et aujourd'hui, on prescrit, les gens prennent beaucoup de compléments probiotiques.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et finalement ce que tu en penses comme impact sur ton microbiote ?
Alors, les probiotiques, effectivement, il y a vraiment une avancée, assez spectaculaire. On en propose de plus en plus. Moi, personnellement, je ne travaille pas avec les probiotiques. Alors, les probiotiques, en fait, ce sont des bactéries, donc plutôt... On sélectionne ça dans un laboratoire. Des bactéries des souches que l'on a en principe, qu'on a essayé d'identifier les souches qu'il y avait en nous ou sur nous, mais surtout, on va dire, en nous. Ça peut être des lactobacillus, etc. Moi, perso, je ne travaille pas avec parce que je suis plutôt... Quand tu l'as dit, dans mon parcours, moi, je viens de l'agriculture biologique et tout. Donc, moi, je mise plutôt sur les aliments.
Sur les bons ingrédients qu'on peut mettre dans l'assiette.
Les vrais ingrédients et tout. Et peu sur les produits qui sont fabriqués en laboratoire, qui ont été stérilisés et tout. Je ne suis pas probiotique et je vais plutôt inciter sur des aliments, sur, après, comme je disais, des fromages à pâte dure, sur des fibres pour pouvoir nourrir les bonnes bactéries. Enfin, voilà, moi, c'est plutôt ça, mon approche. Donc, je sais qu'il y a des résultats avec des probiotiques, mais pour ma part, les gens qui viennent me voir beaucoup en cabinet et souvent qui ont des soucis, on va dire, digestifs, de ballonnement, de peau, etc. et tout... je travaille autrement et j'arrive à avoir des résultats. Donc voilà. Mais c'est une réalité. Il y a une explosion sur les probiotiques. Ceux qui ballonnent, enfin, je le dis tout de suite, quand vous avez vraiment des problèmes au niveau de l'intestin grêle et tout, c'est quand même démontré que les probiotiques, c'est pas ça qui va solutionner.
Mais justement, comment ça se passe une consultation chez toi ?
Alors, comment ça se passe ? Souvent les gens ils viennent aussi du coup pour faire le test respiratoire du microbiote. Alors,
qu'est-ce que c'est que ce fameux test respiratoire ?
Ce test respiratoire, donc c'est un test qui va me donner une idée de comment peut se passer, on va dire, le transit. Est-ce que il est ralenti ? Est-ce qu'il y a un hyperballonnement ? Donc je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle l'intestin grêle. C'est quand même lui à ce niveau-là que se passe à plus de 70-80% de l'absorption des nutriments. Donc, et quand souvent les personnes hyperballonnent et tout, c'est surtout un ballonnement au niveau de l'intestin grêle. Donc concrètement, comment ça se passe ? J'ai un ballon type
éthylotest. Donc tu souffles dans la machine ?
On souffle dans un ballon type éthylotest comme celui-ci. Donc je l'ouvre, je souffle, j'inspire par le nez. Voilà, ça se
remplit. Donc, tu souffles dans le ballon, voilà, il se remplit. Hein, c'est un petit ballon blanc en plastique.
Je viens d'allumer mon appareil et tout. Donc, je le fixe là. Et puis, il va me donner les valeurs de méthylacétate et d'hydrogène. Et là, je demande aux personnes de venir à jeun. Donc, je mesure les valeurs à jeun. Je demande à ce que la veille, elle mange un repas plutôt léger, pas riche en fibres ou alcool, etc.
D'accord.
Ensuite, je leur donne un équivalent de petit déjeuner sucré. Donc là, c'est galette de riz, confiture miel, etc. Et puis de la lactulose. Et donc, après, je remesure à peu près 1h30, 2h après. Et donc, je regarde comment se passe cette assimilation des sucres rapides. Parce que qui dit galette de riz, confiture, miel, lactulose, en fait, c'est du lactose, fructose, glucose. Donc, que des sucres rapides. Donc, ils vont être assimilés et donc, ils vont être digérés par nos bactéries qui, elles-mêmes, vont exprimer, libérer des gaz. Et c'est ces gaz-là que je mesure. Donc, je mesure...
Tu compares les résultats à jeun et après
j'ai des valeurs. Par rapport aux valeurs, je sais à quoi ça correspond. Et entre les deux tests, je pose énormément de questions. Donc, comment
tu poses des questions sur quoi ?
Comment vous êtes né ? Par voie naturelle ou par césarienne, allaitée ou pas. J'essaye de comprendre si la personne était malade, souvent malade, petite ou pas. Est-ce qu'elle avait pris beaucoup d'antibiotiques ? Alors, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la flore buccale, parce qu'en fait, qui dit microbiote, ça commence déjà par la bouche. Il y a des connexions sur l'ensemble de nos muqueuses, donc muqueuse buccale. Digestive et même jusque, on va dire, le vagin, c'est aussi une muqueuse. Oui. Donc, il y a vraiment des connexions qui se font. Et là, de s'intéresser déjà à la flore buccale, c'est important parce que quelqu'un qui va faire des reflux, quelqu'un qui a tendance à faire des caries, de saigner des gencives, etc., tout ça, ce sont déjà des indications pour moi. Ça me donne des informations sur la pression, on va dire, buccale. Et puis, comment la personne s'alimente. Donc, est-ce que c'est plutôt une alimentation qui est riche en, on va dire, en fibres ? Au contraire, c'est plutôt des graisses raffinées ? Au contraire, c'est très protéiné, etc. Enfin, voilà. J'ai un questionnaire qui est assez long.
Food Karma. Food Karma.
Est-ce qu'on peut prendre soin de son microbiote au quotidien? On a parlé de l'alimentation, mais est-ce que ça doit être systématiquement personnalisé ou est-ce qu'on peut, entre guillemets, se contenter de suivre des bonnes règles?
Alors, il y a déjà des règles de base hein, qu'on peut déjà appliquer. Moi, je dis déjà d'avoir une alimentation où il y a... Moi, je dis c'est l'assiette un peu idéale, dans le sens où si vous avez déjà 50% de légumes dans votre assiette et de faire en sorte que parmi ces légumes, par exemple, il y a quand même des légumes qui sont riches en fibres, du type des poireaux, des trucs comme ça. Pas que du poireau, on est bien d'accord, mais ça peut être des courgettes, un peu de poireaux, etc. Voilà, ça va nous apporter certains aliments qui seront intéressants. D'avoir un quart de féculents, mais plutôt des féculents riches en fibres, du coup, c'est intéressant.
Lesquels sont les plus riches en fibres?
Par exemple, ça peut être un riz complet. Voilà, va contenir. Si c'est des céréales, ceux qui prennent parfois du blé, qui mangent, on peut manger des grains de camut. Oui. Complet, ça va le faire aussi.
Le camut, c'est une forme de blé.
C'est une forme de blé, c'est une variété ancienne de blé. Et du coup, si c'est complet, il y a encore des fibres et donc ça devient intéressant. Et puis, il y a aussi de se dire de manger un quart de protéines qui peuvent être animales ou végétales. Si c'est du végétal, ça peut être des lentilles, pois chiches, etc. Et là, encore une fois, ça apporte des légumes. Donc, dès lors qu'on met un peu une diversité, d'avoir du cuit, un peu de cru et d'avoir au moins une certaine quantité de légumes.
Et un peu de fermenté.
Et un peu de fermenté, ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal aussi. Donc, soit ça peut être un jus, soit ça peut être un peu de légumes qui sont fermentés ou autres. En petite quantité, il ne faut pas en avoir une grosse assiette parce que le problème, c'est que certains... Voilà, quand on sait que quelque chose est bon, on a un peu tendance à aller dans des excès. Donc, c'est toujours une petite quantité qui est nécessaire, qui est intéressante. Et là, on peut déjà, avec ces principes de base et en buvant de l'eau, déjà nourrir, on va dire, son microbiote. Maintenant, quand il est déséquilibré, là, c'est vrai que c'est pas facile. Paradoxalement, c'est pour certaines personnes qui ont un déséquilibre du microbiote, souvent elles vont me dire les aliments qui sont intéressants pour le microbiote, je ne les supporte plus. Oui. Par exemple, lentilles, pois chiches, les céréales complètes, des légumes lactofermentés, tout ça, c'est une explosion.
Des aliments dont plein de gens vont dire qu'ils sont difficiles à digérer.
Ils vont dire c'est difficile à digérer et pourquoi ils n'arrivent pas à les digérer, c'est parce qu'en fait, les bonnes bactéries qui leur permettent de les digérer ne sont plus là. S'ils ont mangé essentiellement des aliments qui étaient très raffinés, donc que par exemple des pâtes blanches, beaucoup de la junk food entre guillemets, beaucoup de gâteaux, etc. et tout, c'est sûr que si pendant la construction, quand on était petit, on a mangé beaucoup de ça jusqu'à l'âge adulte, parce que ça reste quand même l'alimentation, on va dire occidentale, western diet, enfin vraiment
ouais, la norme
un peu, et ça fait quand même qu'on appauvrit vraiment son microbiote. Donc, du coup, quand elles essayent de manger ces bons aliments, c'est compliqué. Donc, il faut y aller, du coup, très petite dose.
Food Karma.
Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.
Food Karma.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'ingrédients ou de recettes qui sont gourmandes et pro-microbiote?
Par exemple, moi, j'aime bien manger... par exemple du riz, mais je vais prendre un riz plutôt... j'adore le riz noir ou le riz rouge et tout, d'en avoir un petit peu. Alors si par exemple il était rouge mon riz, d'avoir des lentilles un peu béluga à côté, d'avoir de la courgette, quelques morceaux de poisson. J'aime beaucoup manger de sardines, maquereaux, harengs, des trucs comme ça. Un peu de poisson. Et puis, de mettre des noix, des amandes, quelques graines germées et tout. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est un truc qui s'y prête bien. Il y a des légumes. Il y a des légumineuses. Il y a un peu de... On peut mettre aussi un peu... de, on va dire, quelques pickles, etc. Et un peu de protéines et tout, là, on va se faire du bien, quoi. Ça, c'est... Et puis, je pense que c'est assez consistant. Après, moi, pour ma part, j'aime bien manger aussi de la banane, parce qu'en fait, la banane, c'est super intéressant pour le microbiote. J'en mange souvent, j'aime bien associer la banane.
C'est sans doute pour ça qu'on en trouve dans toutes les recettes magiques des petits déjeuners.
Ouais, tout à fait. Et j'en prends pas mal le matin au petit déjeuner, banane écrasée, je mets de l'huile, je mets des noix et tout, des graines, etc. enfin, et des fruits. Il y a ça. Et puis, il y a plein de... Ouais, c'est de mettre, moi je dis finalement, c'est de se mettre, de manger coloré, d'avoir de la diversité, différentes textures. Si mon assiette elle est toute blanche, il y a un problème. Si mon assiette elle est toute verte, il y a un problème. Si elle est toute rouge, il y a un problème. Donc d'avoir du vert, du bordeaux, enfin de l'orange, etc. C'est top. Là on rentre une saison, on va avoir des courges, etc. Ça reste intéressant. Et d'avoir du cru, du cuit, des herbes, des épices. Le curcuma, c'est hyper intéressant. Ça a des propriétés anti-inflammatoires, c'est top. Le gingembre, c'est génial parce que ça aussi, quand le transit est un peu ralenti, c'est un prokinétique. Ça permet de mieux digérer. En fait, finalement, on se rend compte que c'était aussi du bon sens hein, sur
ouais, finalement, l'alimentation traditionnelle. Ouais, quand je t'écoute, j'ai exactement, l'impression de voir le telly de ma grand-mère.
Tout à fait. C'est exactement
c'est
ça.
C'est une tradition qu'on trouve dans plein de pays, entre exactement. Les mezzés, les bentos, etc. Et c'est cette logique de plein de petits plats.
Tout à fait. Et puis, pareil, il y avait un truc qui quelque chose qui est ancestral, mais moi, que je propose beaucoup pour apaiser, c'est les bouillons. Alors, il peut avoir les bouillons de légumes, mais quelque chose qui était vraiment ancien, c'était aussi les bouillons avec les carcasses, par exemple, de poulet, oui. etc. Et un vrai bouillon qu'on laisse mijoter très, très, très longtemps, mais vraiment du 12 heures, 24 heures, vraiment des recettes anciennes. En fait, là, ça fait qu'on récupère l'ensemble des acides aminés. Et ça, c'est vraiment quand souvent une personne a des problèmes digestifs et a une baisse immunitaire, c'est ce qui fonctionne super bien. Ça, et puis après, avec des vraies plantes, des légumes, on peut se faire des bouillons de légumes aussi, en plus, en parallèle. Je trouve que c'est hyper reminéralisant.
Food Karma. Food Karma.
J'ai un petit questionnaire foodie ouais. pour finir. Hein. Quel est ton plat favori à partager avec tes amis ou ta famille ?
Oh, c'est le riz de ma mère.
Ah, c'est quoi le riz de
ta mère ? C'est un tchiboudjian, mais revisité. Elle le fait au poulet. On l'appelle le riz de Sally, parce que c'est vraiment elle qui l'a. C'est, alors, le tchiboudjian, c'est un plat... Moi, je suis malienne d'origine. C'est un plat sénégalais, ou on va dire de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, etc., qui est du riz qu'on fait cuire dans un jus, une sauce tomate avec plein de légumes, du poisson et tout. Et maman le fait d'une autre façon avec plein d'oignons, carottes, poulet et tout. C'est juste une tuerie. Celui-ci, voilà. Et quand je le fais, il n'est pas comme celui de maman. Donc voilà, d'inviter des gens et de faire goûter le riz de maman, c'est une tuerie.
Quel est ton plaisir solitaire ? Quelque chose que tu manges que quand tu es seule ?
Eh ben, j'adore manger des noix de cajou. C'est mon péché mignon. C'est presque limite addictif. Mais j'essaie de comprendre pourquoi je pouvais avoir cette attirance pour la noix de cajou. J'ai compris qu'il y avait pas mal de magnésium et je pense que ça me calme par rapport quand j'ai des périodes de stress.
Ton épice préférée ?
J'adore le gingembre.
Il y a une urgence aujourd'hui à mieux manger. Quelle serait selon toi la priorité numéro une pour avoir une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre ?
La mesure numéro une, ah ben moi je dirais que c'est de manger du frais et de saison. Et en plus, ça revient pas si cher que ça.
Merci beaucoup, Krotoum. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi.
Ben, merci à toi, Bina. Avec grand plaisir, en tout cas.
À très bientôt.
À bientôt.
Merci.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram, Bina Paradin, ou sur mon blog, karmajoie.com. Merci.
Food Karma.
Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.